Alors, est-ce que je me lance en bonne des questions?
Oui, tu veux.
Bon, alors ça c'est un point technique, il y a quand même des points compliqués que tu as abordés. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos amis pourquoi cette politique monétaire est matrice d'inégalité? Parce que ça, a priori, c'est pas du tout quelque chose d'évident pour des étudiants qui ont commencé des études d'économie, ce lien entre cette politique monétaire expansionniste, a priori généreuse, entre guillemets, et la croissance des inégalités.
D'accord. Alors, sinon, je peux prendre une série de questions et comme ça, on fait ça en batterie. C'est peut-être plus simple, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Deux, trois questions et puis je réponds à chacune.
Je sais pas. Tu peux commencer par... Et puis, ça va venir dans la tête des gens. Mais...
D'accord. Bon. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette politique, comment dire, monétaire alors, bon, présentons rapidement cette politique monétaire et essayons de percevoir quelle est la dimension inégalitaire dans cette politique. Bon. En fait, la Banque Centrale Européenne s'est immédiatement réagi face à la crise de plusieurs manières. Donc tout d'abord, elle était apportée les liquidités nécessaires aux banques parce qu'on craignait ce qu'on appelle un credit crunch, c'est-à-dire une contraction du crédit disponible, et par les banques, on va dire de second rang, c'est-à-dire les banques commerciales, et la banque centrale a essayé de fournir les liquidités nécessaires à ces banques. Bon. Et d'autre part, elle a essayé d'abaisser le plus possible son taux d'intérêt pour rendre finalement le crédit bon marché et permettre, aux ménages, aux entreprises, de recourir à ce crédit pour pouvoir continuer soit à investir, soit à acheter des maisons, que sais-je encore. Et ensuite, dans un deuxième temps, cette banque centrale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé la nature de son action, puisqu'au départ, elle ne pouvait pas racheter des titres de la dette, des différentes dettes souveraines. Elle ne pouvait pas intervenir sur ce qu'on appelle le marché du neuf des obligations, c'est-à-dire le marché primaire, mais elle a réussi à obtenir d'intervenir sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur le marché dit d'occasion du marché obligataire. Et donc, elle est venue acheter des titres de la dette, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, bon, par exemple, si on vendait des titres de la dette, par exemple, je ne sais pas, espagnole, française, sur le marché secondaire, elle viendrait peut-être les racheter. Au départ, dans sa constitution ordéolibérale, elle ne pouvait pas faire ça. Et donc, elle a énormément injecté de liquidités dans l'économie.
Elle a violé les traités.
Elle a violé les traités, puisqu'elle ne pouvait pas, normalement, faire ça.
Comme quoi, on peut violer les traités quand ça avantage certains intérêts, mais c'est une parenthèse.
Oui, alors, effectivement, mais c'est ça qui est très bizarre. Je fais juste une parenthèse, et après, je réponds précisément à ta question. C'est que finalement... C'est là où on retrouve, si j'aime bien, ces idées d'effet de réputation. Parce que personne ne respecte ces règles, dans le fond. Les 3%, les 60%, finalement, au départ, elle est très ordolibérale, et puis elle réussit à s'émanciper de cet ordolibéralisme. Mais, en fait, on passe beaucoup de temps à faire de la créativité comptable pour contourner les règles, on passe beaucoup de temps à essayer d'imaginer des solutions, comme je dis, de contournement. Et ce qui est, à mon avis, fou, parce que je fais juste cette parenthèse, c'est de la perte de temps. Alors que si on n'avait pas toutes ces règles sur les bras, on pourrait, agir au lieu de perdre son temps à essayer de les contourner, ou à essayer de les manipuler, ou à essayer, de perdre son temps à négocier sur 2,04, 2,4. Alors qu'on voit bien que, quand on le veut, eh bien, on peut s'en affranchir d'une certaine façon. Alors quand on le veut, attention. Je pense que si l'Allemagne avait plus brutalement exprimé peut-être son refus de voir la BCE jouer ce rôle, mais bon, comme ça l'arrangeait également de voir la BCE changer un petit peu son fusil d'épaule, elle l'a toléré. Bon. Mais, et ce qui lui a permis finalement, et je finis là-dessus sur la présentation, ensuite je réponds à la question des inégalités, qui a permis à partir de 2012, quand Draghi a dit qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour effectivement sauver l'euro. Et donc, Ce qui a eu pour conséquence, finalement, de donner à la zone euro une stabilité, comment dire, financière, à défaut d'une stabilité économique. On peut faire peut-être... Donc, la question en tant que telle, c'est pourquoi cette politique monétaire, qu'on dit non conventionnelle, c'est-à-dire avec, avec un soutien, comment dire, à la fois de la Banque centrale, qui est un soutien, effectivement, d'injection de liquidités dans le système économique ou de rachat de dettes souveraines, pourquoi, finalement, ça génère un certain nombre d'inégalités dans l'activité économique. En fait, c'est que, dans le fond, la politique de la Banque centrale européenne a nourri à sa manière différentes bulles spéculatives, a profité à des détenteurs effectivement de capitaux, a permis moins de relancer l'investissement, que ce soit des ménages ou des entreprises, mais a permis effectivement à, dans ces logiques de bulles dans laquelle la Banque centrale a plongé, en quelque sorte, a permis à différents acteurs d'économie de s'enrichir à travers cette spéculation qui s'est développée dans le sillage de ce qu'a fait la Banque centrale, et partant de là, eh bien, de concentrer un peu plus de capital, de voir, comment dire, le patrimoine de certains s'enrichir, augmenter. Et donc ceux qui étaient détenteurs effectivement de capitaux qui ont pu spéculer aussi, eux aussi ont vu leur richesse ou un effet de richesse se produire, alors que ceux qui n'avaient que leur travail, ceux qui étaient les travailleurs, on va dire, et qui vivaient essentiellement de leur salaire, eux n'ont pas pu bénéficier en quelque sorte de ces largesses, puisqu'ils n'ont pas un patrimoine, ils n'ont pas pu constituer différents titres, ils n'ont pas pu effectivement participer, si je puis dire, à ces spéculations-là. Qui fait que, dans le fond, la Banque centrale a favorisé les détenteurs de capitaux plus que les travailleurs. Donc on se retrouve, si vous voulez, dans une situation de déséquilibre où, d'une certaine façon, la Banque centrale, et là c'est toutes sortes de débats qui ont lieu, vraiment je vous recommande les travaux de Clément Fontan qui sont très très intéressants à ce sujet, sur effectivement quels effets, sur la répartition des revenus. Et donc, encore une fois, ça a profité aux détenteurs de capitaux plus que ça n'a profité évidemment aux travailleurs qui, eux, ne disposent pas de portefeuille d'actions, qui ne disposent pas de portefeuille de titres, qui n'ont pas, des titres financiers en tant que tels. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette Banque Centrale Européenne, même si elle a pu soutenir un peu l'activité et le crédit, nourrit à sa manière la logique, inégalitaire, puisque fondamentalement tous ces milliards ne se sont pas transformés en autant d'investissements, ne se sont pas transformés en autant de croissance. Hein. Donc finalement, ça a nourri les logiques financières, spéculatives, traditionnelles, qui permettent à certains ou à certains fonds de s'enrichir plus que d'autres, mais ça n'a pas forcément entraîné le dynamisme économique tant espéré. Juste dans une période récente, on a vu que ça a un peu plus stimulé l'investissement, un peu plus stimulé la consommation, mais de manière pas significative. D'ailleurs, Patrick Artus a fait un papier dans Natixis pour dire que le bilan de ces politiques monétaires restait très très modeste, donc en termes de soutien de l'activité. Hein, il y a de bons papiers là-dessus. Peut-être qu'il faut...
Tu peux continuer.
D'accord.
D'accord.
Très bien. Non, parce que je vois que... Bon. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, dans le logiciel de la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas une réflexion sur les inégalités, il n'y a pas une réflexion sur quel rôle elle pourrait jouer dans la transition énergétique, il n'y a pas quel rôle elle pourrait intervenir pour voir comment elle pourrait, par sa politique, aménager les effets ou les conséquences de ces inégalités qu'elle crée. Tout cela n'est pas dans son programme. Donc ce qui fait que derrière la bonne intention de soutenir l'activité économique ou de financer les besoins des États, eh bien fondamentalement, elle ne se soucie pas de la répartition du revenu dans la société, au moment même où, par exemple, les travaux de Piketty soulignent, c'est pas lié à la Banque Centrale bien sûr, mais une concentration formidable du capital dans la période récente. Donc c'est pour cela que il n'y a rien dans la construction européenne aujourd'hui d'efficace qui pourrait corriger les inégalités. Je ne parle pas dans notre pays, mais au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la zone euro. Donc c'est ça qui me préoccupe à titre personnel. Peut-être qu'il faudrait... voilà. Alors, en attendant, parce que là, je vois qu'il y a une petite pause qui se fait. Je vais faire une petite pause au repas.
Et voilà, on fait une pause et on reviendra après.
Voilà.
Très bien.
Parce que je ne vous cacherai pas que j'ai une petite faute. Oui, alors, je vais prendre un menu.
Un menu.
Un menu.